RFI, 20h30 à Kinshasa, une heure de plus à Paris.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Les négociations de Doha pour mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo seraient-elles dans l'impasse? Existe-t-il encore un espoir de parvenir à un accord ou en est-on réellement après plusieurs semaines d'échanges? Éléments de réponse à suivre. Au chapitre des conséquences de ce conflit dans l'est de la RDC, nous parlerons aussi de l'appel à mettre fin aux souffrances de la population. Appel signé par 75 prix Nobel, une tribune parue cette semaine dans le quotidien français Le Monde. Nous irons également en Centrafrique où la mission d'observation électorale de la société civile redoute un nouveau report des élections locales prévues pour le 31 août en cause de non-respect du chronogramme par les autorités. Après le retour cette semaine des délégations de Kinshasa et de l'AFCM-23 dans leurs bases respectives en République démocratique du Congo, le processus de Doha marque une pause et suscite surtout beaucoup de questions. Existe-t-il encore un espoir de parvenir à un accord ou en est-on réellement après plusieurs semaines d'échanges? Quel est l'état d'esprit des différentes parties? Élément de réponse avec Patient Ligaudy.
Le Qatar espère toujours un cessez-le-feu et un accord sur une feuille de route entre le gouvernement congolais et l'AFCM-23. Un document de travail a été présenté aux deux camps par la médiation qatarienne il y a près de deux semaines. Selon une source au fait des négociations, ce texte peut être considéré comme une proposition de paix globale. Mais sur le terrain, les propositions restent très éloignées. Une source diplomatique de la région tempère, ce n'est qu'un draft. Côté AFCM-23, on parle plutôt d'un document de base. Le groupe rebelle estime que ce texte ne peut pas encore être qualifié de projet d'accord, notamment à cause des profondes divergences sur la question de retrait de certaines villes. Selon nos informations, l'AFCM-23 pose plusieurs préalables avant d'aller plus loin. La libération de ses cadres détenus, la levée de la résolution du Parlement congolais qui interdit tout dialogue avec eux et la suppression des condamnations à mort prononcées contre certains de leurs membres. Le 31 mai, face au blocage, l'une des deux délégations a officiellement demandé une pause. Les deux camps sont rentrés consulter leurs directions politiques respectives. Objectif, revenir à la table des négociations avec peut-être des marges de manœuvre élargies.
C'est dans ce contexte que survient cet appel à mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Appel signé par 75 prix Nobel. La tribune est parue cette semaine dans le quotidien français Le Monde. Un appel adressé à la communauté internationale et lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même prix Nobel de la paix en 2018, pour son action dans l'est de la République démocratique du Congo auprès des femmes victimes de viol. Florence Maurice.
La liste des signataires est impressionnante. 75 prix Nobel de nationalité et disciplines variées, chimie, littérature, médecine ou paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, un chimiste britannique. Ensemble, ils dénoncent le silence mondial persistant, disent-ils, qui entoure les crimes commis dans l'Est congolais. Une tragédie, peut-on lire, qui dure depuis trois décennies de conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international. Et tout cela dans une impunité, je cite, enracinée. Les 75 prix Nobel dénoncent l'absence d'actions significatives pour endiguer ces exactions et appellent à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix. S'agissant de la guerre en cours, ils reprochent à la communauté internationale de tolérer, je cite, la présence de l'armée rwandaise dans l'Est congolais, une agression illégale selon leurs termes, qui perdure malgré le vote en février dernier à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent un deux poids, deux mesures.
Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé mercredi de dénoncer unilatéralement l'accord de pêche conclu en 2007 avec l'Union européenne. Libreville estime que l'accord ne lui est pas favorable. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donc instruit son gouvernement pour notifier sa décision à l'Union européenne tout en laissant une porte ouverte à la négociation. En Centrafrique, des inquiétudes pour les élections locales prévues pour le 31 août. La mission d'observation électorale de la société civile constate le non-respect du chronogramme par les autorités et craint un nouveau report de ces scrutins prévus depuis plusieurs années mais jamais organisés. Joseph Bidoumi, le chef de mission du réseau Arc-en-Ciel, redoute également une tentation de coupler ces élections locales avec la présidentielle et les législatives qui doivent impérativement avoir lieu en fin d'année, ce qui risquerait, selon lui, de tourner au fiasco.
Nous ne voulons pas que ce scrutin soit reporté. En février, le gouvernement et l'autorité nationale des élections ont rendu public un chronogramme Ce chronogramme fixait la publication définitive du fichier électoral au 29 mai. Le 29 mai, rien n'a été fait. Le même chronogramme précisait que à la date du 3 juin, un décret convoquant le corps électoral allait être rendu public pour que des élections locales se tiennent le 31 août. Nous n'avons pas eu ce décret et nous avons donc des craintes que le 31 août, nous n'ayons pas les élections locales que nous attendons. Or, nous sommes hors délai. Alors, la crainte, c'est que si les gens prétendent que ces élections-là peuvent être couplées, c'est un exemple que nous n'avons pas essayé depuis 38 ans. Et il y a de fortes chances que nous allions vers des élections qui pourraient être bâclées, sinon non crédibles et non transparentes.
Un propos recueilli par François Mazet. Dans l'actualité également, le Ghana a fait évoluer sa position sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental finit la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Accra soutient désormais le plan d'autonomie marocain, annonce fait hier Rabat par Samuel Okudzeto Ablakwa, le chef de la diplomatie ghanéenne, après sa rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita. Notez par ailleurs qu'un rapport des Nations Unies publié il y a quelques jours met en garde les autorités marocaines contre les violations des droits humains du peuple sahraoui. À Lomé, au Togo, un important dispositif de sécurité a été déployé ce vendredi lors de manifestations contre le pouvoir. Plusieurs journalistes ont été brièvement interpellés et obligés d'effacer les images tournées. Dans la nuit de jeudi à vendredi, d'autres manifestants, pour la plupart des jeunes, ont sillonné certaines artères de la ville pendant plus de 2 heures avant d'être dispersés au gaz lacrymogène. Ces rassemblements rares ces dernières années dénoncent des arrestations ciblées, la hausse du prix du carburant et une récente réforme constitutionnelle renforçant le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Libération ce jeudi à Bamako du secrétaire général du parti d'opposition Convergence pour la démocratie. Alassane Abba avait été arrêté le 8 mai à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire et demandé sa libération. Alassane Abba était connu pour ses prises de position tranchées contre la junte. Il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel. L'armée malienne s'est retirée ce vendredi d'un de ses principaux camps militaires dans le centre du pays après 2 attaques attribuées à des djihadistes, attaques qui ont coûté la vie à des dizaines de soldats en quelques jours dans un contexte de recrudescence des violences au Sahel, selon des sources militaires et des autorités locales. Ce retrait du camp de Boulikessi est stratégique et tactique selon des sources sécuritaires et militaires citées par l'agence France-Presse. En sport, la Basketball Africa League a pris ses quartiers en Afrique du Sud pour la dernière étape de cette 5e saison. Après Rabat, Dakar et Kigali, les 8 meilleures équipes du tournoi se retrouvent donc depuis ce vendredi à Pretoria pour déterminer le vainqueur. Le Rwanda accueillait ses phases finales depuis la création de la balle en 2021. Mais pour la première fois, Claire Bargelès, c'est donc la nation arc-en-ciel qui a été choisie.
Même si Rwandair et Visit Rwanda restent parmi les sponsors et diffusent des clips vidéo lors des mi-temps, c'est bien à l'Arena de Pretoria qu'ont lieu ces phases finales. Ce choix fait sens étant donné la présence historique de la NBA sur place, selon le président de la compétition, Amadou Galofal.
Nous avons passé beaucoup de temps dans ce pays depuis 2003 quand on a organisé le premier camp en Afrique, ça s'est fait ici. Nous avions organisé notre conférence Kalahari ici l'année dernière et vraiment le succès était retentissant. Nous sommes confiants que le public va venir et que surtout nous avons les 8 meilleures équipes de notre saison qui vont se disputer ce trophée farouchement.
Après les démêlés financiers des Cape Town Tigers et la défaite en phase qualificative des Made by Ball de Johannesburg, l'Afrique du Sud n'est pas représentée sur le terrain. Hannibal Manav, le président de la branche Afrique de la FIBA, la fédération de basket, espère que l'événement saura stimuler les équipes du pays.
Nous sommes convaincus que le fait d'accueillir les finales servira de catalyseur pour le développement du basket en Afrique du Sud et contribuera à ce que les équipes sud-africaines retrouvent le plus haut niveau de la compétition continentale. C'est leur place.
Les responsables du basket africain sont aussi revenus sur l'absence d'une ligue similaire pour les femmes, affirmant travailler sur la question. Claire Bargelès, Pretoria, RFI.
Et j'ajoute qu'en match d'ouverture, les Cap-Verdiens de Creole Star ont dominé le Fat Union Sport de Rabat, 91 à 88. RFI, 19h40 en temps universel.